Chapitre 8 qui explique honorablement l'absence de Samweller en rendant compte d'une soirée où il fut invité et assista, et qui raconte en outre comment ledit Samweller fut chargé par M. Pickwick d'une mission particulière pleine de délicatesse et d'importance.
« Monsieur Weller !»
dit Mistress Cradock dans la matinée du jour mémorable dont nous venons d'esquisser les aventures.
« Voici une lettre pour vous !»«
C'est bien drôle, » répondit Sam. « J'ai peur qu'il n'y ait quelque chose, car je ne me rappelle pas un seul gentleman dans mes connaissances qui soit capable d'en écrire une. »«
Peut-être est-il arrivé quelque chose d'extraordinaire !» fit observer Mistress Cradock.
« Faut que ce soit quelque chose de bien extraordinaire pour produire une lettre d'un de mes amis, » répliqua Sam en secouant dubitativement la tête. « Ni plus ni moins qu'un tremblement de terre, comme le jeune gentleman observa quand il fut pris d'une attaque. « Ça ne peut pas être de mon papa, » poursuivit Sam en regardant l'adresse. « Il fait toujours des lettres moulées parce qu'il a appris à écrire dans les affiches. « C'est bien extraordinaire. » D'où cette lettre-là peut-elle me venir ? Tout en parlant ainsi, Sam faisait ce que font beaucoup de personnes lorsqu'elles ignorent de qui leur vient une lettre. Il regarda le cachet, puis l'adresse, puis les côtés, puis le dos de la lettre, et enfin, comme dernière ressource, il pensa qu'il ferait peut-être aussi bien de regarder l'intérieur et d'essayer d'en tirer quelques éclaircissements. C'est écrit sur du papier doré, dit Sam en dépliant la lettre, et cacheté de cire verte avec le bout d'une clé. Faut voir. Et, avec une physionomie très grave, il commença à lire ce qui suit. Une compagnie choisie de domestiques de Bath présente leurs compliments à M. Weller et réclame le plaisir de sa compagnie pour un raout amical composé d'une épaule de mouton bouillie avec l'assaisonnement ordinaire. Le raout sera servi sur table à 9h30, heure militaire. Cette invitation était incluse dans un autre billet ainsi conçu. Monsieur John Smoker, le gentleman qui a eu le plaisir de rencontrer Monsieur Weller chez leur mutuelle connaissance Monsieur Bantam il y a quelques jours, a l'honneur de transmettre à Monsieur Weller la présente invitation. Si Monsieur Weller veut passer chez Monsieur John Smoker à 9h, M. John Smoker aura le plaisir de présenter M. Weller. Signé John Smoker. La suscription portée à M. Weller, Esquire, chez M. Pickwick. Et, entre parenthèses, dans le coin gauche de l'adresse étaient écrits ces mots, comme une instruction au porteur, « Tirez la sonnette de la rue ». Eh bien, dit Sam, en voilà une drôle. Je n'avais jamais entendu appeler auparavant une épaule de mouton bouillie un raout. Comment donc il l'appellerait si elle était rôtie ? Cependant, sans perdre plus de temps à débattre sur ce point, Sam se rendit immédiatement chez M. Pickwick et lui demanda pour le soir un congé qui lui fut facilement accordé. Avec cette permission et la clé de la porte de la rue dans sa poche, Sam sortit un peu avant l'heure désignée et se dirigea d'un pas tranquille vers Queen Square. Là, il eut la satisfaction d'apercevoir M. John Smoker, dont la tête poudrée, appuyée contre un poteau de réverbère, fumait une cigarette à travers un tube d'ambre. « Comment vous portez-vous, M. Weller ?» dit M. John Smoker en soulevant gracieusement son chapeau d'une main, tandis qu'il agitait l'autre d'un air de condescendance. « Comment vous portez-vous, monsieur ?»« Eh, la convalescence n'est pas mauvaise, » repartit Sam. « Et vous, mon cher, comment vous va ?»«
Là !»«
Ah, vous aurez trop travaillé. J'en avais terriblement peur. Ça ne réussit pas à tout le monde, voyez-vous. Faut pas vous laisser emporter comme ça par votre ardeur. »«
Ce n'est pas tant cela, monsieur Weller. C'est plutôt le mauvais vin. » « Je mène une vie trop dissipée, je le crains. »«
Oh, c'est-il cela ? C'est une mauvaise maladie, ça ?»«
Et pourtant, les tentations, monsieur Weller !»«
Ah, bien sûr !»«
Plongé dans le tourbillon de la société, comme vous savez, monsieur Weller !»« ajouta M. John Smoker avec un soupir. « Ah, c'est terrible en vérité !»«
Mais c'est toujours comme cela quand la destinée vous pousse dans une carrière publique, M. Weller. On est soumis à des tentations dont les autres individus sont exempts. »
« Précisément ce que mon oncle disait quand il ouvrit une auberge, » répondit Sam. « Et il avait bien raison, le pauvre vieux, car il a bu sa mort en moins d'un terme. »
M. Smoker parut profondément indigné du parallèle établi entre lui et le défunt aubergiste. Mais comme le visage de Sam conservait le calme le plus immuable, M. Smoker y réfléchit mieux et reprit son air affable.
« Nous ferions peut-être bien de nous mettre en route, » dit-il en consultant une montre de cuivre qui habitait au fond d'un immense gousset et qui était élevée à la surface au moyen d'un cordon noir garni à l'autre bout d'une clé de chrysocale.
« C'est possible, » répondit Sam. « Autrement, on pourrait laisser brûler le raout et ça le gâterait. »«
Avez-vous bu les eaux, monsieur Weller ?»
demanda son compagnon tout en marchant vers High Street.
« Une seule fois. »«
Comment les trouvez-vous ?»«
Considérablement mauvaises. »«
Ah, vous n'aimez pas le goût verrugineux, peut-être ?»«
Je ne connais pas beaucoup ça. J'ai trouvé qu'elle sentait la tôle rouge. »«
C'est le verrugineux, monsieur Weller, »
rétorqua M. John Smoker d'un ton contemptueux.
« Eh bien, c'est un mot qui ne signifie pas grand-chose, voilà tout. » Au reste, je ne suis pas beaucoup chimique, ainsi peut pas dire. »
En achevant ces mots, et à la grande horreur de M. John Smoker, Sam commença à siffler.
« Je vous demande pardon, M. Weller, » dit M. Smoker, torturé par ce bruit inélégant. « Voulez-vous prendre mon bras ?»«
Merci, vous êtes bien bon, je ne veux pas vous en priver. » « J'ai l'habitude de mettre mes mains dans mes poches si cela vous est superficiel. »
En disant ceci, Sam joignit le geste aux paroles et recommença à siffler plus fort que jamais.
« Par ici !» dit son nouvel ami qui paraissait fort soulagé en entrant dans une petite rue. « Nous y serons bientôt. »«
Ah ah !» fit Sam sans être le moindrement ému en apprenant qu'il était si proche de la fleur des domestiques de Bath.
« Oui, reprit M. John Smoker, ne soyez pas intimidé, M. Weller. »«
Oh que non !»«
Vous verrez quelques uniformes très brillants, et peut-être trouverez-vous que les gentlemen sont un peu roides d'abord. C'est naturel, vous savez, mais ils se relâcheront bientôt.
Ce sera très obligeant de leur part. »«
Vous savez, reprit M. Smoker, avec un air de sublime protection. « Comme vous êtes un étranger, ils se mettront peut-être un peu après vous d'abord. »«
Ils ne seront pas trop cruels, n'est-ce pas ?» demanda Sam.
« Non, non !» repartit M. Smoker en tirant sa tabatière qui représentait une tête de renard et en prenant une prise distinguée. « Il y a parmi nous quelques gais coquins et ils aiment à s'amuser !» « Vous savez, mais il ne faut pas y faire attention. Il ne faut pas y faire attention. »«
Je tâcherai, » dit Sam, « de supporter le débordement des talents et de l'esprit. »«
À la bonne heure, » répliqua M. John Smoker en remettant dans sa poche la tête de renard et en relevant la sienne. « D'ailleurs, je vous soutiendrai. »
En causant ainsi, ils étaient arrivés devant une petite boutique de fruitiers. M. John Smoker y entra et Sam, qui le suivait, laissa alors s'épanouir sur sa figure un muet ricanement et divers autres symptômes énergiques d'un état fort désirable de satisfaction intime. Après avoir traversé la boutique du fruitier et déposé leur chapeau sur les marches de l'escalier qui se trouvait derrière, ils entrèrent dans un petit parloir. Et c'est alors que toute la splendeur de la scène se dévoila au regard de Sam Weller. Deux tables d'inégale hauteur, accouplées au milieu de la chambre, étaient couvertes de trois ou quatre nappes de différents âges, arrangées autant que possible pour faire l'effet d'une seule. Sur ces nappes, on voyait des couteaux et des fourchettes pour 7 ou 8 personnes. Or, les manches de ces couteaux étaient verts, rouges et jaunes, tandis que ceux de toutes les fourchettes étaient noirs, ce qui produisait une gamme de couleurs des plus pittoresques. Des assiettes pour un nombre égal de convives chauffaient derrière le garde-cendre. Les convives eux-mêmes se chauffaient devant. Parmi eux, le plus remarquable comme le plus important, était un grand et vigoureux gentleman dont la calotte et l'habit à longs pans resplendissaient d'une éclatante couleur d'écarlate. Il se tenait debout, le dos au feu, et venait apparemment d'entrer. Car, outre qu'il avait encore sur la tête son chapeau retroussé, il gardait à la main une très longue canne, telle que les gentlemen de sa profession ont l'habitude d'emporter derrière les carrosses. « Smoker, mon garçon, votre nageoire !» dit le gentleman au chapeau à cornes. Monsieur Smoker insinua le bout du petit doigt de sa main droite dans la main du gentleman au chapeau à cornes, en lui disant qu'il était charmé de le voir si bien portant. « C'est vrai, on dit que j'ai l'air assez rosé, et c'est étonnant. Depuis une quinzaine, je suis toujours notre vieille femme pendant 2 heures, et rien que de contempler si longtemps la façon dont elle agrafe sa vieille robe de soie lilas, il n'y a pas de quoi vous rendre hypofondre pour le reste de votre vie. Je consens à perdre mon traitement. » À ces mots, la compagnie choisie se mit à rire de tout son cœur, et l'un des gentlemen, qui avait un gilet jaune, murmura à son voisin, qui avait une culotte verte, que Cuttle était en train ce soir-là. « À propos, reprit M. Tuckle, Smoker, mon garçon, vous... » Le reste de la sentence fut déposé dans le tuyau de l'oreille de M. Smoker. « Ah, tiens, je l'avais oublié, répondit celui-ci. « Gentlemen, mon ami, M. Weller. »« Fâché de vous boucher le feu, Weller, » dit M. Tuckle avec un signe de tête familier. « J'espère que vous n'avez pas froid, Weller. »« Pas le moins du monde, flambant, » répliqua Sam. « Faudrait un sujet bien glacé pour avoir froid vis-à-vis de vous. Vous économiseriez la houille si on vous mettait sur la grille dans une salle publique, vrai ?» Comme cette réplique paraissait faire une allusion personnelle à la livrée écarlate de M. Tuckle, il prit un air majestueux durant quelques secondes. Pourtant, il s'éloigna graduellement du feu et dit avec un sourire forcé « Pas mauvais, pas mauvais !»« Je vous suis bien obligé pour votre bonne opinion, monsieur, » reprit Sam. « Nous arriverons peu à peu, j'espère. Plus tard, nous en essaierons un meilleur. » En cet endroit, la conversation fut interrompue par l'arrivée d'un gentleman vêtu de peluche orange. Il était accompagné d'un autre personnage en drap pourpre, avec un remarquable développement de bas. Les nouveaux venus ayant été congratulés par les anciens, M. Tuckle proposa de faire apporter le souper, et cette proposition fut adoptée unanimement. Le fruitier et sa femme déposèrent alors sur la table un plat de mouton bouilli avec une sauce chaude au capre, des navets et des pommes de terre. M. Tuckle prit le fauteuil et eut pour vice-président le gentleman en peluche orange. Le fruitier mit une paire de gants de castor pour donner les assiettes et se plaça derrière la chaise de M. Tuckle. « Harris !» dit celui-ci d'un ton de commandement. « Monsieur ? Avez-vous mis vos gants ? Oui, monsieur. Alors, ôtez le couvercle. Oui, monsieur. » Le fruitier, avec de grandes démonstrations d'humilité, fit ce qui lui était ordonné et tendit obséquieusement à M. Tuckle le couteau à découper. Mais, en faisant cela, il vint par hasard à bâiller. « Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur ?» lui dit M. Tuckle avec une grande aspérité. « Je vous demande pardon, monsieur, » répondit le fruitier décontenancé. « Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur. J'ai veillé tard la nuit dernière. » « Je vais vous dire mon opinion sur votre compte, Harris, » poursuivit M. Tuckle avec un air plein de grandeur. « Vous êtes une brute mal élevée. »
« J'espère, gentlemen, dit Harris, que vous ne serez pas trop sévères envers moi. Je vous suis certainement très obligé, gentlemen, pour votre patronage et aussi pour vos recommandations, gentlemen, quand on a besoin quelque part de quelqu'un de plus pour servir. J'espère, gentlemen, que vous êtes satisfait de moi. »
« Non, monsieur, dit monsieur Tuckle, bien loin de là, monsieur.
Vous êtes un drôle sans soin, grommela le gentleman en peluche ronge.
Et un fichu chenapan, ajouta le gentleman en culotte verte.
Et un mauvais gueux, continua le gentleman de couleur pourpre.
Le pauvre fruitier saluait de plus en plus humblement, tandis qu'on le gratifiait de ses petites épithètes selon le véritable esprit de la plus basse tyrannie. Lorsque tout le monde eut dit son mot pour prouver sa supériorité, M. Tuckle commença à découper l'épaule de mouton et à servir la compagnie. Cette importante affaire était à peine entamée quand la porte s'ouvrit brusquement et laissa apparaître un autre gentleman en habit bleu clair avec des boutons d'étain.
« Contre les règles, dit M. Tuckle, trop tard, trop tard. »
« Non, non, impossible de faire autrement, répondit le gentleman bleu. « J'en appelle à la compagnie, une affaire de galanterie, un rendez-vous au théâtre. »«
Oh, dans ce cas-là, s'écria le gentleman en peluche orange.
« Oui, réellement, parole d'honneur. J'avais promis de conduire notre plus jeune demoiselle à 10h30, et c'est une si jolie fille, réellement, que je n'ai pas eu le cœur de la désobliger. Pas d'offense à la compagnie présente, monsieur. Mais un cotillon, monsieur, réellement, c'est irrévocable.
Je commence à soupçonner qu'il y a quelque chose là-dessous, dit Tuckle pendant que le nouveau venu s'asseyait à côté de Sam. J'ai remarqué une ou deux fois qu'elle s'appuie beaucoup sur votre épaule quand elle descend de voiture.
Oh, réellement, réellement, Tuckle, il ne faut pas, c'est pas bien. J'ai pu dire à quelques amis que c'était une divine créature et qu'elle avait refusé deux ou trois mariages sans motif, mais non, non, réellement, Tuckle, devant des étrangers encore. C'est pas bien, vous avez tort, la délicatesse, mon cher ami, la délicatesse. »
Ayant ainsi parlé, l'homme à la livrée bleue releva sa cravate, ajusta ses parements, grimaça et fronça les sourcils, comme s'il avait pu en dire infiniment plus long, mais qu'il se crut, en honneur, obligé de se taire. C'était une sorte de petit valet de pied, à l'air libre et dégagé, aux cheveux blonds, au cou empesé, et qui avait attiré dès l'abord l'attention de Sam. Mais quand il eut débuté de cette manière, M. Wheeler se sentit plus que jamais disposé à cultiver sa connaissance. Aussi s'immissa-t-il tout d'un coup dans la conversation avec l'indépendance qui le caractérisait.
« À votre santé, monsieur, dit-il, j'aime beaucoup votre conversation. Je la trouve vraiment jolie. »
En entendant ce discours, l'homme bleu sourit comme une personne accoutumée aux compliments. Mais en même temps, il regarda Sam d'un air approbatif et répondit qu'il espérait cultiver davantage sa connaissance, car sans flatterie, il y avait en lui l'étoffe d'un joli garçon et tout à fait selon son cœur.
« Vous êtes bien bon, monsieur, rétorqua Sam. Quel heureux gaillard vous êtes !»«
Qu'est-ce que vous voulez dire ? » demanda l'homme bleu avec une modeste confusion.
« Cette jeune demoiselle ici, elle sait ce que vous valez, j'en suis sûr.
Ah, je comprends les choses. »
Et Sam ferma un œil en roulant sa tête d'une épaule à l'autre d'une manière fort satisfaisante pour la vanité personnelle du gentleman azuré.
« Vous êtes trop malin, répliqua-t-il.
« Non, non, c'est bon pour vous, reprit Sam.
Ça ne me regarde pas, comme dit le gentleman qui était en dedans du mur à celui qui était dans la rue, quand le taureau courait comme un enragé.
Eh bien, monsieur Wheeler, nullement. Je crois qu'elle a remarqué mon air et mes manières.
J'imagine que ça ne peut guère être autrement.
Avez-vous quelque amourette de ce genre en train, monsieur?
demanda Sam l'heureux gentleman en tirant un cure-dent de la poche de son gilet.
« Pas exactement, » répondit Sam. « Il n'y a pas de demoiselle à la maison, autrement j'aurais fait la cour à l'une d'elles nécessairement. Mais voyez-vous, je ne voudrais pas me compromettre avec une femme au-dessous d'une marquise. Je pourrais prendre une Richarde si elle devenait folle de moi, mais pas autrement. Non, ma foi. »
Certainement non, monsieur Weller. Il ne faut pas se laisser déprécier. Nous, qui sommes des hommes du monde, nous savons que, tôt ou tard, un bel uniforme écorne toujours le cœur d'une dame. Au fait, c'est la seule chose entre nous qui fait qu'on peut entrer au service.
Justement, dit Sam, c'est ça, rien que ça.
Après ce dialogue confidentiel, des verres furent distribués à la ronde. Et avant que la taverne fût fermée, chaque gentleman demanda ce qu'il aimait le mieux. Le gentleman en bleu et l'homme en orange, qui étaient les beaux-fils de la société, ordonnèrent du grog froid. Mais le breuvage favori des autres paraissait être le genièvre et l'eau sucrée. Sam appela le fruitier « satané coquin » et ordonna un bol de punch, deux circonstances qui semblèrent l'élever beaucoup dans l'opinion des domestiques choisis.
« Gentlemen, dit l'homme bleu avec le ton du plus consommé dandy. « Allons, à la santé des dames !»«
Écoutez, écoutez !» s'écria Sam, « aux jeunes maîtresses !»
À ce mot, de toutes parts, on entendit crier « à l'ordre !» Et M. John Smoker, étant le gentleman qui avait introduit Sam dans la société, l'informa que ce mot n'était pas parlementaire.
« Quel mot, monsieur ?» demanda Sam.
« Maîtresse, monsieur !» répondit M. Smoker avec un froncement de sourcils effrayant. « Ici, nous ne reconnaissons pas de distinction semblable. »«
Oh, très bien alors, j'amenderai mon observation et je les appellerai les chères créatures, si Flamborn veut bien le permettre. »
Quelques doutes parurent s'élever dans l'esprit du gentleman en culotte verte sur la question de savoir si le président pouvait être légalement interpellé par le nom de Flamborn. Toutefois, comme les assistants semblaient moins soigneux de ses droits que des leurs, l'observation n'eut point de suite. L'homme au chapeau à cornes fit entendre une petite toux courte et regarda longuement Sam. Mais il pensa apparemment qu'il ferait aussi bien de ne rien dire, de peur de s'en trouver plus mal. Après un instant de silence, un gentleman, dont l'habit brodé descendait jusqu'à ses talons et dont le gilet également brodé tenait au chaud la moitié de ses jambes, remua son genièvre et son eau avec une grande énergie. Et, se levant tout d'un coup sur ses pieds par un violent effort, annonça qu'il désirait adresser quelques observations à la compagnie. L'homme au chapeau retroussé, s'étant hâté de l'assurer que la compagnie serait très heureuse d'entendre toutes les observations qu'il pourrait avoir à faire, le gentleman au grand habit commença en ces termes.
« Je sens une grande délicatesse à me mettre en avant, gentlemen, ayant l'infortune de n'être qu'un cocher et n'étant admis que comme membre honoraire dans ces agréables soirées. » Mais je me sens poussé, gentlemen, l'éperon dans le ventre, si je puis employer cette expression, à vous faire connaître une circonstance affligeante qui est venue à ma connaissance et qui est arrivée, je puis dire, à la portée de mon fouet. Gentlemen, notre ami, Monsieur Whiffers, tout le monde regarda l'individu orange, notre ami, Monsieur Whiffers, a donné sa démission.
Un étonnement universel s'empara des auditeurs. Chaque gentleman regardait son voisin et reportait ensuite son œil inquiet sur le cocher, qui continuait à se tenir debout.
« Vous avez bien raison d'être surpris, gentlemen, » poursuivit celui-ci. « Je ne me permettrai pas de vous frelater les motifs de cette irréparable perte pour le service. Mais je prierai M. Whiffers de les énoncer lui-même pour l'instruction et l'imitation de ses amis. »
Cette suggestion ayant été hautement applaudie, M. Whiffers s'expliqua. Il dit qu'il aurait certainement désiré de continuer à remplir l'emploi qu'il venait de résigner. L'uniforme était extrêmement riche et coûteux, les dames de la famille très agréables, et les devoirs de sa place, il était obligé d'en convenir, n'étaient pas trop lourds. Le principal service qu'on exigeait de lui était de passer le plus de temps possible à regarder par la fenêtre en compagnie d'un autre gentleman qui avait également donné sa démission. Il aurait désiré épargner à la compagnie les pénibles et dégoûtants détails dans lesquels il allait être obligé d'entrer. Mais, comme une explication lui avait été demandée, il n'avait pas d'autre alternative que de déclarer hardiment et distinctement qu'on avait voulu lui faire manger de la viande froide. Impossible de concevoir le dégoût qu'éveilla cet aveu dans le sein des auditeurs. Pendant un quart d'heure au moins, on n'entendit que de violents cris de « honteux, ignoble !» mêlés de sifflets et de grognements. M. Wither ajouta alors qu'il craignait qu'une partie de cet outrage ne pût être justement attribuée à ses dispositions obligeantes et accommodantes. Il se souvenait parfaitement d'avoir consenti une fois à manger du beurre salé. Et dans une occasion où il y avait eu subitement plusieurs malades dans la maison, il s'était oublié au point de monter lui-même un panier de charbon de terre jusqu'au second étage. Il espérait qu'il ne s'était pas abaissé dans la bonne opinion de ses amis par cette franche confession de sa faute. Mais s'il avait eu ce malheur, il se flattait d'y être remonté par la promptitude avec laquelle il avait repoussé le dernier et flétrissant outrage qu'on avait voulu faire subir à ses sentiments d'homme et d'anglais. Le discours de M. Wither fut accueilli par des cris d'admiration et l'on but à la santé de l'intéressant martyr de la manière la plus enthousiaste. Le martyr fit ses remerciements à la société et proposa la santé de leur visiteur, M. Weller, gentleman qu'il n'avait pas le plaisir de connaître intimement, mais qui était l'ami de M. John Smoker, ce qui devait être, partout et toujours, une lettre de recommandation suffisante pour toute société de gentlemen. Par ces considérations, il aurait été disposé à voter la santé de M. Weller avec tous les honneurs si ses habits avaient bu du vin. Mais comme il prenait des spiritueux et qu'il pourrait être dangereux de vider un verre à chaque toast, il proposait que les honneurs fussent sous-entendus. À la conclusion de ce discours, tous les assistants burent une partie de leur verre en l'honneur de Sam. Et celui-ci, ayant puisé dans le bol et avalé deux verres en l'honneur de lui-même, offrit ses remerciements à l'assemblée dans un élégant discours. « Bien obligé, mes vieux !» dit-il en retournant au bol avec la plus grande désinvolture. « Venant d'où ce que ça vient, c'est prodigieusement flatteur. J'avais beaucoup entendu parler de vous, mais je n'imaginais pas, je dois le dire, que vous eussiez été d'aussi étonnamment jolis hommes que vous êtes. J'espère seulement que vous ferez attention à vous et que vous ne compromettrez en rien votre dignité, qui est une charmante chose à voir, quand on vous rencontre en promenade et qui m'a toujours fait grand plaisir depuis que je n'étais qu'un moutard, moitié haut que la canne à pommes de cuivre de mon très respectable ami Flambant, ici présent. Quant à la victime de l'oppression en habit jaune, tout ce que je puis dire de lui, c'est que j'espère qu'il trouvera une occupation aussi bonne qu'il le mérite, moyennant quoi il sera très rarement affligé par des raouts froids. Cela dit, Sam se rassit avec un agréable sourire, et son oraison ayant été bruyamment applaudie, la société se sépara bientôt après. « Par exemple, vieux, vous n'avez pas envie de vous en aller ?» dit Sam à son ami, M. John Smoker. « Il le faut, en vérité, » répondit celui-ci. « J'ai promis à Bantam. » « Oh, c'est très bien, » reprit Sam, « c'est une autre affaire. » Peut-être qu'il donnerait sa démission si vous le désappointiez. Mais vous, Flambant, vous ne vous en allez pas ? Mon Dieu, si ! Répliqua l'homme au chapeau à cornes. Quoi ? Et laisser derrière vous les trois quarts d'un bol de punch ? Cette bêtise ! Rasseyez-vous donc ! Monsieur Tuckle ne put résister à une invitation si pressante. Il déposa son chapeau et sa canne et répondit qu'il boirait encore un verre pour faire plaisir à M. Weller. Comme le gentleman en bleu demeurait du même côté que M. Tuckle, il consentit également à rester. Lorsque le punch fut à moitié bu, Sam fit venir des huîtres de la boutique du fruitier, et leur effet, joint à celui du punch, fut si prodigieux que M. Tuckle, coiffé de son chapeau à cornes et armé de sa canne à grosses pommes, se mit à danser un pas de matelot sur la table au milieu des coquilles, tandis que le gentleman en bleu l'accompagnait sur un ingénieux instrument musical formé d'un peigne et d'un papier à papillotes. À la fin, quand le punch fut terminé et que la nuit fut également fort avancée, ils sortirent tous les trois pour chercher leur maison. À peine M. Tuckle se trouva-t-il au grand air qu'il fut saisi d'un soudain désir de se coucher sur le pavé. Sam, pensant que ce serait une pitié de le contredire, lui laissa prendre son plaisir où il le trouvait. Mais de peur que le chapeau à cornes de flambant ne s'abîmât dans ses conjonctures, il l'aplatit bruyamment sur la tête du gentleman en livrée bleue, lui mit la grande canne à la main, l'appuya contre la porte de sa maison, tira pour lui la sonnette et s'en alla tranquillement à son hôtel. Dans la matinée suivante, M. Pickwick descendit, complètement habillé, beaucoup plus tôt qu'il n'avait l'habitude de le faire, et sonna son fidèle domestique. Sam ayant répondu exactement à cet appel, le philosophe commença par lui faire fermer soigneusement la porte et dit ensuite « Sam, il est arrivé ici la nuit dernière un malheureux accident qui a donné à M. Winkle quelques raisons de redouter la violence de M. Dowler. » « Oui, monsieur, j'ai entendu dire cela à la vieille dame de la maison. » « Et je suis fâché d'ajouter, » continua M. Pickwick d'un air intrigué et contrarié, « je suis fâché d'ajouter que, dans la crainte de cette violence, M. Winkle est parti. »« Parti ? Il a quitté la maison ce matin sans la plus légère communication avec moi et il est allé je ne sais pas où. »« Il aurait dû rester et se battre, monsieur. » dit Sam d'un ton contempteur. « Il ne faudrait pas grand-chose pour redresser ce Dowler. » « C'est possible, Sam. J'ai peut-être aussi quelques doutes sur sa grande valeur, mais, quoi qu'il en soit, M. Winkle est parti. Il faut le trouver, Sam, le trouver et me le ramener. » « Et s'il ne veut pas venir, monsieur ?»« Il faudra le lui faire vouloir, Sam. » « Et qui le fera, monsieur ?» demanda Sam avec un sourire. « Vous !»« Très bien, monsieur. » À ces mots, Sam quitta la chambre et bientôt après, M. Pickwick l'entendit fermer la porte de la rue. Au bout de 2 heures, il revint d'un air aussi calme que s'il avait été dépêché pour le message le plus ordinaire et rapporta qu'un individu, ressemblant en tout point à M. Winkle, était parti le matin pour Bristol par la voiture de l'Hôtel Royal. « Sam, dit M. Pickwick en lui serrant la main, vous êtes un garçon précieux, inestimable. Vous allez le poursuivre, Sam. »« Certainement, monsieur. Aussitôt que vous le découvrirez, écrivez-moi. S'il essaie de vous échapper, empoignez-le, terrassez-le, enfermez-le. Je vous délègue toute mon autorité, Sam. »« Je ne l'oublierai pas, monsieur. Vous lui direz que je suis fort irrité, excessivement indigné de la démarche extraordinaire qu'il lui a plu de faire. Oui, monsieur. Vous lui direz que s'il ne revient pas dans cette maison avec vous, il y reviendra avec moi, car j'irai le chercher. Je lui en glisserai 2 mots, monsieur. Vous pensez pouvoir le trouver ? Poursuivit M. Pickwick en regardant Sam d'un air inquiet. Je le trouverai s'il est quelque part, répliqua Sam avec confiance. « Très bien, alors plus tôt vous partirez, mieux ce sera. » M. Pickwick ayant ajouté une somme d'argent à ses instructions, Sam mit quelques objets nécessaires dans un sac de nuit et s'éloigna pour son expédition. Pourtant, il s'arrêta au bout du corridor et, revenant doucement sur ses pas, il entr'ouvrit la porte du parloir et ne laissant voir que sa tête. « Monsieur !» murmura-t-il. « Eh bien, Sam !» « J'entends-t-il parfaitement mes instructions, monsieur ?»« Je l'espère. »« S'est-il convenu pour le terrassement, monsieur ?»« Parfaitement. Faites ce que vous jugerez nécessaire. Vous aurez mon approbation. » Sam fit un signe d'intelligence et, retirant sa tête de la porte entrebâillée, se mit en route pour son pèlerinage, le cœur tout à fait léger.